Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux que je connais, à ceux que je ne connais pas encore. Bienvenue à ce webinaire ITECOP.
Recording in progress.
Merci. Donc, vous avez bien entendu, cette restitution est enregistrée. Je suis Claire Salomon, je suis directrice adjointe du Centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité, qui est un programme de recherche de la FRB, et j'animerai ce webinaire ITECOP pour la restitution du projet Navidive. Navidive, c'est l'acronyme d'infrastructure de navigation fluviale et biodiversité, impact et opportunité pour la gestion du paysage navigable. Cette restitution sera faite à une double voie, par Alinor Gilaskov de l'INRAE et Jean-Nicolas Bézel de ENGIE CNRS, qui sont tous les deux co-porteurs du projet. Comme convenu avec les organisateurs, quelques mots introductifs sur cette session. Alors, tous les présents, vous connaissez ITECOP, ce programme incitatif de recherche conduit par le ministère de la Transition écologique et en coordination avec l'ADEME, l'OFB et la FRB. Programme créé en 2008 dans le cadre de la première stratégie nationale pour la biodiversité, avec un objectif très vaste, très ambitieux, qui était de confronter les enjeux techniques des ILT avec leurs interfaces avec les territoires, en incluant les dimensions paysagères et écosystémiques, en prenant en compte aussi les différentes échelles spatiales et temporelles, mais aussi les modalités de gouvernance territoriale et l'ensemble des enjeux écologiques ou patrimoniaux. Vaste programme. Donc ce programme ITECOP vise à rassembler également autour de ces questions des différents acteurs, qu'ils soient publics, privés, issus du monde académique, de l'ingénierie, des acteurs de la société civile. La FRB, dont je fais partie, est membre actif d'ITECOP. Nous avons été créés aussi en 2008, aussi à l'initiative du ministère de la Recherche, qui avait décidément beaucoup de bonnes idées à l'époque, mais aussi du ministère de la Recherche. La mission de la FRB est de soutenir et d'agir avec la recherche pour développer et transférer les connaissances liées à la biodiversité. La FRB, c'est une fondation de coopération scientifique de droit privé, donc on dénote un petit peu dans le paysage de la recherche. On est constitué de 11 membres fondateurs. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation institutionnelle, ce n'est pas l'objet de notre session aujourd'hui. Le projet Navidive qui vous sera présenté et restitué aujourd'hui, lui, est issu d'un appel qui a été co-construit entre ITECOP et la FRB dans le cadre d'un appel en 2020. Et cet appel visait à soutenir des projets fondés sur l'analyse et la synthèse de données existantes. Le thème de l'appel était Approche territoriale de la biodiversité, infrastructures de transport, milieux naturels et agricoles à l'échelle européenne. C'était un appel qui visait à soutenir un projet de type CESAB, Centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité. Donc, c'est un centre, effectivement, mais c'est le programme de recherche de la FRB qui a maintenant une quinzaine d'années. La particularité des projets CESAB tels que Navili, Valénor et Jean-Nicolas en parleront, c'est que ce sont des projets qui font de la collecte, de la mise en commun et de l'analyse de très larges jeux de données déjà existants qui permettent de dézoomer des questions de recherche. Ces projets de recherche, CESAB, permettent aussi de rassembler 10 à 15 chercheurs nationaux et internationaux et de champs disciplinaires différents. Typiquement, le projet Navidive réunit des spécialistes de synthèse de données sur la biodiversité, mais aussi en relation entre la navigation et la biodiversité et en restauration des rivières. Ces groupes de chercheurs se réunissent sur des temps longs, régulièrement, pendant toute la durée du projet, en un lieu unique, qui est le CESAB, justement, à Montpellier. Ce sont des projets qui sont soutenus par un postdoctorant qui les accompagne sur une bonne partie du temps du projet, et aussi une équipe qui est basée à Montpellier, qui intervient en appui également pour le bon fonctionnement du projet, tant en termes de data science, d'organisation logistique, de suivi budgétaire, etc. Avant de laisser complètement la parole à Aliénor et Jean-Nicolas, donc quelques petites notions d'organisation de ce webinaire. Comme d'habitude, on laisse le micro coupé, on n'intervient pas sur la présentation PowerPoint pour ne pas en faire bénéficier tout le public. La présentation va durer 30 minutes. Puis elles seront, cette présentation sera suivie d'un temps d'échange, questions-réponses de 30 minutes aussi. N'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions en direct ou alors à écrire vos questions dans le chat. Enfin, et avant que je l'oublie, je tenterai de le dire à la fin. Le prochain webinaire ETHECOP aura lieu le 17 septembre. Il s'agira de présenter le projet Summer. Je crois que j'ai tout dit pour le moment. Donc n'hésitez pas à intervenir et je laisse la parole de ce pas à Aliénor et Jean-Nicolas. Merci à vous deux.
Merci beaucoup à toi, Claire, pour cette
Merci Claire.
introduction. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter effectivement les résultats du projet Navidive, qui en fait s'est déroulé avec un groupe d'une dizaine de chercheurs et chercheuses de différents laboratoires en Europe. Donc, comme le disait Claire, des spécialistes de la question navigation et biodiversité. Et nous avons bénéficié du travail d'un postdoctorant, Aaron Sexton, pendant 2 ans et demi, qui a réalisé la majorité des analyses que nous allons vous présenter ici. Alors, le contexte, vous êtes, je pense, familier avec celui-ci. En particulier, la réalité que l'Europe est actuellement dans une réflexion sur une stratégie de développement de mobilité durable dans l'objectif d'atteindre la neutralité climatique à horizon 2050 et une alternative très prometteuse de transport de marchandises. Se trouve être la navigation fluviale. Donc pour atteindre ces objectifs, la navigation fluviale va être amenée à s'intensifier et les infrastructures vont devoir être développées plus fortement pour répondre à ces demandes. Or, ces développements ne sont pas sans conséquences sur les écosystèmes aquatiques et la biodiversité qu'ils abritent. En particulier, de nombreuses études démontrent par exemple que certaines pressions liées à la navigation peuvent affecter donc, les compartiments biotiques et abiotiques des cours d'eau, par exemple le trafic fluvial, les vagues provoquées par les bateaux qui peuvent générer de l'échouage et de l'érosion, les activités de ballastage qui peuvent amener à des contaminations, ou encore la présence d'écluses qui peuvent fragmenter les systèmes et empêcher la migration de certaines espèces, ou encore tout ce qui est lié à l'entretien des voies navigables, notamment le curage, qui peut amener à la perturbation des milieux et la perte d'habitat pour de nombreuses espèces. Et donc, de nombreuses études existent comme ça à échelle locale sur des taxons assez spécifiques, des cas, des situations particulières, etc. Mais finalement, on manque d'une vision synthétique de tous ces effets. Et c'est à cela que Navidive a cherché à répondre en traitant trois grandes questions qui restaient à élucider. À savoir de façon plus quantitative et synthétique, quels sont les effets de la navigation et des infrastructures associées sur la biodiversité dans son ensemble. Ensuite, finalement, de quoi dépendent ces effets selon justement les taxons que l'on considère, le contexte dans lequel nous nous plaçons, les échelles spatiales. Et enfin, quelles solutions de restauration et de gestion peut-on envisager pour atténuer ces impacts? Alors, pour répondre à ces questions, comme le disait Claire, nous avons adopté des approches de synthèse, donc vraiment conformément aux méthodes du CESAB, à savoir donc des revues de la littérature, des analyses de données assemblées et de la méta-analyse. Alors, le premier grand pan du projet s'attelle à comprendre et quantifier, comme je disais, les effets de la navigation et des infrastructures sur les écosystèmes aquatiques. Et dans un premier temps, nous avons fait un état de l'art des connaissances dans la littérature pour recenser les effets directs et indirects démontrés dans la littérature et donc sur les compartiments biotiques et abiotiques des cours d'eau. Et en particulier, nous avons regardé trois grands types de pressions liées à la navigation, à savoir la navigation elle-même, les infrastructures et enfin la gestion des voies navigables. Alors, pour répondre à cet objectif, nous avons adopté les méthodes de revue de systématique de la littérature qui nous ont permis de trouver quasiment 8000 articles sur le sujet que nous avons filtrés et analysés pour aboutir à un corpus de 240 articles pertinents pour la question, desquels nous avons extrait des informations qui nous intéressaient. Donc, les informations qui nous intéressaient, à savoir donc, le type d'effet analysé dans les études, donc par exemple le trafic fluvial, le focardage, le type de réponse analysée, donc par exemple la distribution d'une espèce invasive ou encore la diversité d'espèces, la direction de l'effet, donc est-ce qu'il était démontré positif, négatif ou autre, et la significativité de l'effet, donc l'aspect statistique démontré de la relation. Ceci nous a permis d'identifier plus de 1000 relations entre un facteur de navigation donné et une réponse biotique ou abiotique. Alors, très grossièrement, ici, nous avons cartographié le nombre d'articles, hein, principalement, qui s'intéressaient à cette question, ce qui nous permet, d'un seul coup d'œil, de voir que c'est une question très étudiée en Amérique du Nord, en Chine et en Europe, avec en Europe en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas, chez qui la navigation est très développée. Et puis, plus en profondeur, cette exploration nous permet donc de constater que la majorité des relations concernaient l'effet de la navigation elle-même et des infrastructures, mais un peu moins de la gestion des voies navigables, principalement le compartiment biotique, avec les poissons et les invertébrés en tête de file, et enfin, principalement porté sur les espèces non invasives, et beaucoup moins sur les espèces invasives. Alors, avec une analyse quantitative de ces relations, nous avons pu regarder les effets démontrés sur les espèces natives à gauche et les espèces exotiques à droite. Ce que nous pouvons voir du premier coup d'œil en rouge, ce sont les effets principalement négatifs des trois grands types de pression dont je vous ai parlé et de leur combinaison sur les espèces natives, et en vert, les effets principalement positifs sur les espèces invasives. On peut voir par ailleurs que de nombreuses relations sont avérées non significatives dans ces études à travers les deux compartiments. Mais surtout, nous avons pu constater en violet que de nombreuses relations, enfin une part en tout cas non négligeable des relations, pouvaient varier. Le sens des relations pouvait varier selon un troisième facteur. Et en général, ce troisième facteur pouvait être le taxon étudié, le type de métrique utilisée pour représenter la pression ou la réponse, le type de contexte dans lequel l'analyse a été faite. Donc, ceci nous a amené au deuxième grand pan du projet qui porte sur la contexte-dépendance des relations navigation-biodiversité. Alors, dans ce contexte, ce qu'on a voulu faire en particulier, donc, c'est de vérifier les liens que nous avons vus là à travers une revue de la littérature, cette fois-ci de les vérifier de façon empirique à large échelle sur des données d'observation. Nous avons cherché à distinguer les effets de la navigation elle-même par rapport aux infrastructures sur les communautés, et enfin d'évaluer la dépendance de ces relations au contexte, et en l'occurrence, dans notre cas, en particulier au contexte riparien et paysager. Donc pour ce faire, très rapidement, nous avons encore une fois, en vertu des méthodes du CESAB, compilé et homogénéisé différentes sources de données, notamment 15 jeux de données de biodiversité, invertébrés et poissons sur les voies navigables en Europe qui ont été apportées par nos différents partenaires. Donc, qui nous ont permis d'additionner 3000 sites d'observation que nous avons croisés avec des données de navigation et d'infrastructure, donc trafic fluvial, nombre d'écluses, de ports, taux de chenalisation. Alors, pour étudier les effets de la navigation sur la biodiversité, nous avons calculé des indices de diversité taxonomique et fonctionnelle et densité d'espèces exotiques que nous avons mis en relation avec donc, les facteurs de trafic fluvial, densité d'infrastructure et chenalisation, que nous avons mis en interaction avec des variables de contexte à l'échelle locale, en l'occurrence ici, une notion de dégradation riparienne, et à l'échelle du paysage, avec l'artificialisation du paysage, en particulier le taux de couverture, le taux d'usage des sols en agricole et en urbain. Alors, quelques résultats de cette étude. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que la navigation, donc le trafic fluvial en particulier, a un effet prédominant négatif sur l'ensemble, enfin sur les deux compartiments, quelle que soit la métrique de diversité utilisée, avec des effets assez, voilà, assez frappants, hein, de passage de communautés qui pouvaient être spécialistes à des communautés composées de plus. Davantage de généralistes et d'espèces plus tolérantes avec des dispersions actives, etc. Et par contre, donc de façon plus, on va dire plus étonnante, ces données ont détecté un effet positif des écluses sur la diversité en poissons. Mais qui rejoint quand même pas mal certaines études qui démontrent effectivement que dans certains cas, et en particulier dans des milieux très anthropisés, donc déjà très fragmentés, les écluses peuvent permettre de faciliter dans certains cas le passage des poissons, ce qui pourrait expliquer ce signal. Mais surtout, nous avons pu voir que ces relations dépendaient significativement des contextes locaux et paysagers. Puisqu'en particulier, nous avons pu voir par exemple ici, vous avez à droite la richesse taxonomique des poissons en fonction de l'intensité du trafic fluvial. Donc clairement, la richesse diminue en fonction du trafic, mais elle diminue principalement dans un paysage fortement urbanisé. Donc ceci nous suggère que la dégradation du paysage amplifie l'effet négatif de la navigation sur les poissons. Et par ailleurs, d'autres analyses nous ont permis de voir que plus la zone riparienne était en bon état, plus l'impact était faible. Par contre, chez les invertébrés, on a observé un patron différent, puisque la dégradation du paysage est venue masquer l'effet négatif de la navigation, avec l'idée que le paysage est déjà et a atteint un niveau d'altération tel que nous ne détectons plus vraiment l'effet négatif de la navigation. Mais ces analyses ont leur qualité, mais ne permettent pas forcément de distinguer ce que la navigation a pu générer comme effet sur, par exemple, les espèces exotiques et invasives qui pourraient à leur tour avoir un effet indirect sur la biodiversité native. Et surtout, nous ne savons pas à travers cette étude comment extrapoler ces relations à travers les échelles. Et c'est ce que Jean-Nicolas va maintenant vous présenter.
Merci Aliénor. Donc effectivement, sur le volet espèces exotiques, toujours pour deux compartiments, les poissons, les macro-invertébrés benthiques, on a exploré trois types de questions. On s'est demandé en fait quels aspects de la navigation entre le trafic fluvial et l'artificialisation de la voie d'eau étaient les plus en lien finalement avec la distribution des espèces exotiques. Si l'on trouvait des liens, on s'est demandé si c'était échelle spatiale dépendant. Et puis finalement, à l'intérieur de ces groupes, est-ce qu'il y a des sous-groupes, des profils finalement qui profitent ou qui pâtissent des effets de la navigation. Alors, pour explorer ces questions, on a travaillé avec des données publiques qui sont sur une plateforme internationale qui s'appelle GBIF. GBIF, c'est une plateforme absolument énorme qui regroupe à l'échelle mondiale 3 milliards de données. Et sur ces 3 milliards de données, il y en a 25 millions. Il y a 25 millions d'observations en Europe sur les poissons et les macro-invertébrés benthiques. On les a extraites, ces 25 millions. Et puis un premier travail, ça a consisté à trier ce qui est exotique et ce qui ne l'est pas. Donc ça a été un travail assez important parce que vous avez des espèces qui se sont dispersées à travers l'Europe, d'une zone native européenne à une zone introduite européenne, et c'est finalement pas si facile que ça à définir. Lorsque l'on a extrait uniquement les espèces exotiques, eh bien, on arrive à un total de 500 000 observations sur le territoire qui était d'intérêt pour nous. Ce territoire, on l'a subdivisé ensuite en sous-bassins versants, c'est ce que vous voyez sur la carte en rouge. Ce sont des unités qui, en moyenne, représentent 80 000 km². Et puis, pour voir si les relations sont finalement échelle dépendante, on est allé à des échelles bien plus fines, et la plus fine, eh bien, elle correspond à des tout petits sous-bassins versants qui font 140 km² seulement en moyenne. Les relations modélisées correspondent essentiellement à des résultats de modèles mixtes dans la suite de ce que je vous propose. Alors, Là, je vous montre un graphique sur les occurrences de poissons exotiques en Europe. Et en fait, je dois vous préciser qu'on a travaillé avec des données dites raréfiées, c'est-à-dire qu'évidemment, le nombre d'espèces va dépendre de la pression d'observation. Et cette pression est très inégale selon les territoires. Et donc, il faut ramener la valeur de richesse observée à une expression de la pression d'observation. Et ça s'appelle la richesse raréfiée. On a utilisé l'indice de Mélynik. Quand on regarde les résultats, vous avez sur la gauche quatre graphiques. Alors, ceux du haut correspondent aux poissons, ceux du bas aux invertébrés. Et puis, les deux graphiques de gauche, c'est sur la richesse raréfiée. Et les deux graphiques de droite, sur l'occurrence raréfiée. Alors, vous avez différents points avec des couleurs du vert clair au vert foncé, c'est les différentes échelles spatiales. Et puis finalement, ces graphiques qui vous montrent le résultat d'un test qui évalue si c'est le trafic fluvial qui a une importance ou l'artificialisation de la voie d'eau ou la présence de ports, la présence d'écluses, la température de l'eau, l'altitude et enfin le débit. Et ce que l'on voit assez immédiatement, hein, quand la moyenne avec son intervalle de confiance se démarque de la ligne zéro, eh bien, c'est que quelle que soit l'échelle spatiale, la richesse en exotique est fortement influencée par l'artificialisation de la voie d'eau. Les canaux sont vraiment des habitats qui leur sont très favorables. On a ça à la fois pour les poissons et pour les invertébrés bentiques. Et puis le deuxième facteur qui saute aux yeux, c'est celui de la température. Et ça laisse penser que avec le changement climatique qui est en cours, eh bien, cette relation pourrait s'amplifier encore à l'avenir. Alors, dans des analyses que je ne vous présente pas ici, on a travaillé sur des sous-groupes à l'intérieur des poissons, par exemple, et on a pu montrer en particulier que le trafic fluvial pouvait avoir une incidence sur certains profils, en particulier les espèces réophiles, qui sont défavorisées par le passage des bateaux, qui est relativement raccord avec la synthèse des connaissances que vous a présentée Aliénor. Alors, le troisième volet de Navidive, c'était, d'accord, il y a un impact de la navigation sur la biodiversité, mais finalement, est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on peut essayer de concilier les deux? Donc, c'est un volet restauration. On a procédé de deux manières. D'abord, une revue de la littérature et ensuite, une méta-analyse de ce qui avait déjà pu être testé. Alors, pour la revue de la littérature, on a isolé 61 études qui spécifiquement évoquent une mesure, on va dire, de restauration, d'atténuation des effets de la navigation, en évoquant clairement le contexte de navigation, pardon. Donc, ces 61 études correspondent à 31 mesures. Et on peut les classer, ces mesures, selon un schéma qui est sur la droite. Alors, c'est du jargonnage de la directive cadre sur l'eau, c'est un schéma DPSIR. Si vous regardez tout en haut, vous avez des variables de contrôle qui sont un peu macroscopiques. C'est la globalisation des échanges, c'est l'économie, c'est la démographie humaine qui nécessite eh bien, plus de transport de biens à large échelle avec un minimum de gaz à effet de serre. Et évidemment, cela induit des pressions. On a toujours le même découpage, soit le trafic des bateaux, soit l'infrastructure elle-même, soit la gestion de la voie d'eau. Et ces trois types de pressions vont jouer sur la biodiversité, hein, les espèces en place, mais ça peut être aussi la structure des communautés, la manière dont ces espèces sont assemblées, et puis leur fonctionnement. On pense en particulier aux réseaux trophiques. Donc, il y a des impacts de ces pressions sur ces états à travers une réduction de l'habitat et de la biodiversité, une rupture de continuité des espèces invasives. C'est ce qu'on vous a décrit juste avant. Donc, dans ce schéma DPSIR, R correspond aux réponses qu'on peut apporter, c'est les 31 mesures. Et 12% de ces réponses, 12% des mesures évoquées dans la littérature correspondent à des mesures de prévention. Et dans ces cas-là, il s'agit essentiellement de réglementation. Par exemple, il y a une réglementation qui date de 2009 sur la qualité des carburants utilisés par les bateaux au niveau européen. Et cette réglementation a permis d'améliorer d'une manière très significative la qualité de l'air et des sols le long des voies navigables. Si je prends des mesures dites de réduction, c'était à peu près 54% des études, eh bien, je peux penser par exemple à l'adaptation des coques de bateaux pour limiter en fait les hauteurs de vagues créées par l'avancée du bateau. On va diminuer les effets de traînée en fait, soit en adjoignant sur la coque des appendices, soit en imaginant pour les nouveaux bateaux des formes différentes. Ces mesures de réduction, ça peut passer aussi par l'amélioration de passes à poissons ou par d'autres mesures comme la gestion des voies d'eau. Et puis j'en arrive aux mesures qu'on a classées comme atténuation, on peut jouer sur les mots. Il s'agit en fait d'actions de restauration au sens de la Société européenne de restauration écologique, c'est-à-dire le processus d'aide à la récupération d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. Alors pour être concret, je vais partir du chenal et je vais m'en éloigner latéralement. Et le premier endroit où l'on peut intervenir, eh bien, c'est au niveau de l'interface entre le chenal et la berge. Et vous voyez ici deux exemples de génie végétal, de technique végétale. En haut, il s'agit d'un matelas de branches de saule qui ont été mis en place. La photo a été prise 7 mois après cette intervention. Et puis en bas, vous voyez en fait que des enrochements ont été gardés en pied de berge, probablement du fait d'une érosion par les vagues des bateaux. Et puis au-dessus, on devine un étagement en gabions qui ont été végétalisés. Et ces deux techniques de génie végétal fonctionnent bien pour remplacer des choses qui peuvent être classiquement beaucoup plus artificielles. Si l'on veut être un peu plus ambitieux encore que ces exemples-là, on peut imaginer séparer physiquement la partie strictement naviguée, ici à droite sur l'image, eh bien, de la partie latérale, avec des pales-planches en alcier qui vont laisser latéralement une zone d'eau très peu profonde, où le courant va être soit stagnant, soit très faible, et qui est très propice au développement de macrophytes aquatiques, qui eux-mêmes représentent un support intéressant pour beaucoup d'espèces, par exemple des odonates. Et ces zones-là sont bien connues pour être aussi des nurseries pour les poissons. Une manière d'aller encore plus loin, c'est de remplacer ces pales planches eh bien, par une forme de digue végétalisée. Le fait qu'on ait des végétaux sur cette séparation apporte encore une plus-value en termes d'habitat à cet aménagement. Et puis, si on imagine une opération vraiment d'envergure, pour gagner de la continuité latérale, on va passer de l'image du haut, où on a quelque chose qui est très corseté par les digues, à quelque chose en bas où on a travaillé sur la microtopographie pour garder des points de débordement. Et finalement, ces points de débordement avec une gestion adéquate des niveaux d'eau permet de reconnecter ce lit mineur avec son lit majeur et de reconnecter le chenal principal avec les annexes hydrauliques. Alors, s'il existe toutes ces solutions techniques, une question résiduelle, c'est est-ce qu'elle fonctionne ? Et on peut légitimement se poser la question pour au moins deux raisons. D'abord, sur la gauche, je vous ai listé quelques articles qui rendent compte du manque de bénéfices constatés lorsque l'on restaure des rivières de petite taille ou de taille moyenne. Quelquefois, les résultats écologiques ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. On comprend aujourd'hui extrêmement bien pourquoi, c'est bien expliqué, mais le risque, c'est qu'on ait la même chose en grand milieu. Et puis, il y a un challenge à restaurer en grand milieu, parce qu'on ne retire pas la pression. C'est-à-dire que le but de la restauration n'est pas d'intervenir alors que la pression a été effacée, mais le but, c'est de restaurer pour concilier l'usage, à savoir la navigation, avec les éléments de biodiversité. Donc, on a investigué cela avec ce qu'on appelle une méta-analyse. Ça veut dire qu'on est allé rechercher dans la littérature des études desquelles on pouvait extraire des données quantifiées. Donc, il y a beaucoup d'études qui peuvent traiter du sujet, hein, de la restauration de milieux en zone naviguée, mais on en a trouvé entre guillemets que 35 pour lesquelles les données quantitatives étaient accessibles. Ça paraît peu, mais c'est un chiffre qui est assez énorme. Pour obtenir ces 35, on est allé jusqu'à contacter des auteurs pour qu'ils nous livrent leurs données originelles. Et ça, ça nous a permis d'évaluer 285 effets différents, puisque dans une étude, il peut très bien y avoir à la fois des mesures qui sont faites, par exemple, sur les compartiments biologiques et sur des éléments de géomorphologie. Le graphique vous montre, en fait, par rapport à la ligne verticale qui marque zéro, eh bien, la significativité des effets. Lorsque vous avez le point qui vous donne une valeur moyenne et flanqué de son intervalle de confiance, lorsque cet intervalle de confiance n'est pas chevauchant avec cette ligne zéro, eh bien, ça veut dire que l'effet est significatif pour le faire d'une manière très simple. Et ce que l'on voit assez immédiatement, c'est que pour quasiment tous les habitats, tous les taxons, tous les niveaux d'organisation, eh bien, on a l'impression que les restaurations fonctionnent. Et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Dans d'autres investigations que je ne vous montre pas là, ce qui marche le mieux, c'est des adaptations qui relèvent de la géomorphologie, c'est de la régulation de niveau d'eau, c'est de la gestion de végétation riparienne. Et le bémol quand même qu'on peut émettre, c'est que dans le graphique de gauche, je vous montre une situation restaurée par rapport à une situation dégradée, non restaurée. Mais dans le graphique de droite, pour 80, un peu plus de 80 effets des 285, on a une comparaison qui est fournie par les auteurs entre le milieu restauré et un milieu de référence sur lequel il n'y avait pas la pression de navigation. Et vous voyez qu'en fait, ici, ce que l'on cherche, c'est que notre moyenne flanquée de son intervalle de confiance, au contraire, soit sur cette ligne zéro. Et quand elle y est, ça veut dire qu'on a obtenu une restauration qui équivaut à peu près à la référence. Et vous voyez que là, on n'y est pas pour tous les compartiments. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la restauration fonctionne d'une manière globale, mais que pour certains compartiments, quand on va dans le détail, on ne retourne pas évidemment à des niveaux de référence sans perturbation. Alors, j'en arrive aux principales conclusions de notre étude. D'abord, je pense qu'on a fait la démonstration que c'est utile de séparer les effets de la navigation entre les bateaux, les effets de l'infrastructure et les effets de la gestion de la voie navigable. Ces trois facteurs qui sont vraiment très très différents. Peut-être que là où on a le moins de documentation, d'articles scientifiques, c'est sur les effets de la gestion des voies navigables, c'est là une lacune de connaissances qu'on a pu identifier. On a pu clairement montrer qu'il y avait un fort impact de la navigation elle-même, c'est-à-dire du trafic des bateaux, sur la biodiversité native, et que cet impact peut être en quelque sorte pondéré par le contexte, et qu'il semble moindre quand on est dans un contexte qui a encore un niveau de naturalité assez important, au niveau paysager, avec en particulier une bande riparienne assez fonctionnel. Les canaux, par contre, sont des habitats très favorables aux espèces exotiques, avec le risque que ça augmente au fil du temps. Et puis, on vient de le voir, la restauration fonctionne, même si ça ne nous ramène pas à des niveaux de référence. Donc, il y a forcément des compromis probablement à trouver entre les usages, les aménagements à faire et les éléments de biodiversité. Nous espérons que ces conclusions seront utiles en termes de recommandations, peut-être vis-à-vis de réglementations qui pourraient concerner le trafic fluvial, qui pourraient concerner des opérations déclusées pour améliorer la collectivité, ou le ballastage, déballastage des bateaux des eaux intérieures. Il est clair que pour développer des solutions un peu d'envergure, il faut concilier en particulier de la gestion écologique, c'est-à-dire à la fois des mesures de restauration et de la gestion des voies navigables. Et ça permettra au passage de faire face probablement au changement climatique à venir. On espère que les cellules plus opérationnelles s'empareront de ces résultats, qui sont basés sur des éléments de science, qui ne relèvent pas de l'opinion, et cela pour produire finalement des éléments de politique de gestion à une échelle européenne. Je termine en remerciant, au nom d'Aliénor et moi-même, d'abord le programme ITECOP et le CESAB pour leur soutien. On a travaillé d'une manière vraiment très fluide et agréable. C'était extrêmement enrichissant sur un plan humain. C'est pas négligeable du tout. C'était une belle expérience humaine. Et puis, c'était une belle expérience scientifique de travailler avec ce groupe qui était très dynamique, bien engagé. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. On est encore dans la valorisation de ces travaux. Et ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est un aperçu de ce qui est en cours de publication ou ce qui est déjà publié.
Merci beaucoup Jean-Nicolas, merci beaucoup Aliénor, c'était très intéressant. Pour rebondir justement sur les propos de Jean-Nicolas, dans le chat, Laure Roux a fait un commentaire proposition. Je vais laisser Laure la reprendre directement du coup.
Bonjour, oui. Je ne sais pas si vous me voyez.
Oui.
Oui. Okay. Je suis Laure Roux. En fait, je travaille à la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Donc, je ne suis pas la personne qui va dire spécialiste de tous les aspects biodiversité. En revanche, mon collègue, c'est le cas. Donc, c'est Raphaël Wieselmann. Et on a des très bons contacts avec aussi la CIPR, qui est la Commission internationale pour la protection du Rhin, et qui, elle, est spécialisée dans tous ces enjeux de biodiversité, et notamment comment ménager les différents utilisateurs de la voie d'eau, au-delà, on va dire, de la partie fluviale. Qu'en est-il aussi de l'utilisation de l'eau par l'agriculture, les centrales hydroélectriques, etc. Et si jamais vous n'avez pas encore été en contact avec eux, moi, j'ai aucun problème à vous mettre en contact, en tout cas avec mon collègue, et qui, lui, pourra aussi vous transmettre les contacts pertinents. Je suis assez persuadée que il y aurait un moyen de disséminer ces résultats via la CIPR si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore exploré. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie proposition de mettre en contact. Pareil pour tous les gestionnaires de la voie d'eau. Je crois que vous avez dit à un moment donné que vous avez eu des difficultés peut-être à collecter des données sur les gestionnaires de la voie d'eau. Ben, nous, on a aussi un comité chargé des infrastructures fluviales, alors sur le Rhin, certes, mais disons qu'on va avoir les bons interlocuteurs au niveau des différents états rhénans. Je pense que c'est aussi une mise en contact qu'on peut vous proposer. Et la dernière chose donc que je voulais vous parler, vous avez parlé des eaux de ballastage. Je voulais simplement mentionner la CDNI, peut-être comme une recommandation. C'est la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets en navigation rhénane. Et il y a un standard sur tout ce qui est déchargement des eaux de ballastage. Voilà. La CDNI, en fait, elle met en place des infrastructures de réception des déchets. Les eaux de ballastage ne font pas partie du champ principal. Je n'ai pas toutes les raisons de pourquoi le ballastage n'en fait pas pleinement partie. Mais à ce stade, il y a déjà un standard pour le déchargement. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant comme une bonne pratique. Et vous avez parlé aussi d'adaptation des bateaux. Il y a beaucoup de travaux en ce moment sur l'adaptation des bateaux en raison des niveaux d'eau sur le Rhin et sur, de façon générale, les rivières à courant libre qui vont beaucoup baisser. Et donc là, il y a peut-être des synergies à trouver. À mesure que les bateaux sont adaptés pour être adaptés aux basses eaux, peut-être qu'il y a aussi des adaptations dans le sens de la biodiversité qui pourront être faites. Et il me semble que le moment, effectivement, est maintenant, parce qu'il y a énormément de recherches sur l'adaptation des bateaux en vue du changement climatique et également des infrastructures de façon plus globale. Voilà pour ces quelques mots, mais en tout cas, c'était très intéressant. Donc, merci pour l'invitation.
Merci beaucoup pour cette intervention et merci pour cette proposition de mise en relation qui nous intéresse parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément facile pour nous dans notre monde académique d'aller toucher des gens qui sont dans des sphères plus opérationnelles. On a souvent comme interlocuteur bon bah, VNF ou la CNR, enfin des opérateurs comme ça. Mais au-delà, on a moins de visibilité et peut-être moins de facilité aussi à aller chercher les gens. Donc, on rebondira très probablement sur cette proposition et on reviendra vers vous pour cela. Merci aussi pour les infos par rapport au standard de déballastage. Ça va être intéressant à fouiller.
Très bien, mais avec plaisir.
Très bien, très intéressant en fait. C'est également, je trouve aussi ces perspectives de contact. C'est aussi à ça que sert ce type de restitution avec les webinaires. C'est pour essayer d'attraper des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Nicolas Edtroncard.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai peut-être pas bien vu hein, dans les actions de restauration que vous avez mentionnées. Je me demandais s'il y en avait qui concernaient les espèces exotiques. Comme vous avez vu que c'était qu'il y avait un effet fort de la navigation là-dessus, je voulais savoir si vous avez dans vos analyses, enfin, dans vos méta-analyses, eu des informations sur des actions qui pourraient être menées éventuellement vis-à-vis de cette pression. Et peut-être vous les avez mentionnées et que j'ai pas vu hein, sur les graphiques. Je m'en excuse d'avance si c'était le cas. Merci.
Alors, oui, merci à vous pour la question. On avait un cahier des charges quand on travaillait sur quelles actions de restauration étaient utilisées. On voulait que ce soit explicitement soit dans une zone naviguée, soit pour faire face à une contrainte liée à la navigation, que ce soit le transport, l'infrastructure ou la gestion de la voie d'eau. Donc, il existe des mesures de restauration ou de gestion des espèces invasives, mais je suis pas certain que dans notre méta-analyse en particulier, nous en ayons intégré, parce que la présence de l'espèce invasive n'était pas explicitement décrite comme étant causée par la navigation. Je sais pas si Aliénor, tu as des éléments pour
oui, effectivement,
cette partie-là.
On avait quand même évoqué l'idée d'aller voir en détail si on pouvait séparer les analyses sur les espèces invasives dans le corpus. Je pense que c'était une de nos tâches pour finaliser. Mais de façon plus générale, dans la carte systématique des connaissances, on avait pu voir des procédés assez originaux, notamment des procédés d'effarouchement de certains poissons face à des obstacles ou face à des seuils pour qui étaient espèces spécifiques et qui enfin donc avec du son qui permettait de faire fuir certaines espèces. Je me souviens plus pour quelle espèce c'était, mais je me souviens, enfin ça m'avait marqué parce que c'était un exemple assez assez précis en fait de
oui.
Technique.
Il y a des choses qui ont été testées aux États-Unis sur des rideaux de bulles aussi, par exemple, pour empêcher la progression de certaines espèces de carpes dans le bassin du Mississippi. Mais par exemple, si on trouve un article spécifiquement dévolu à cette question-là, cet article ne va pas explicitement évoquer la navigation comme entrant dans les facteurs qui interviennent finalement pour que l'espèce se propage ou pour qu'on intervienne sur cette espèce. Donc c'est pas forcément retenu dans notre corpus de données analysées.
D'accord. Et peut-être si je peux me permettre de rebondir sur cet aspect-là, comme vous avez montré que la navigation a un effet hein, sur ces espèces exotiques. Est-ce que vous auriez quand même quelques recommandations? Est-ce qu'avec vos travaux, vous pouvez identifier, ou alors il faudrait mener un autre projet? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des recommandations vis-à-vis de comment on pourrait atténuer cet effet, quoi, de la navigation sur les espèces exotiques?
Tu veux répondre ou je réponds à Léna?
Bah, vas-y, si tu veux, sur la partie, peut-être j'ai bu.
Ben, je. Oui, moi, il me semble que le. la partie justement où on utilise les données des biches, met en évidence que c'est les milieux les plus artificialisés qui font le lit finalement au développement et au maintien de ces espèces en grand nombre. Donc en fait, il semblerait que l'artificialisation des milieux leur soit très favorable. Le corollaire, ce serait que la naturalité des milieux leur soit un peu plus défavorable et que ça permette de privilégier les espèces natives. Donc la restauration du milieu physique, en redonnant de la connectivité latérale, en diversifiant les habitats, en restaurant la végétation riparienne, vont dans le bon sens pour essayer de limiter en fait le développement et surtout la surabondance des exotiques ou des invasifs. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième, c'est que le transport par voie d'eau est vecteur. C'est ce qui permet de disperser. Au-delà de l'installation, il y a le côté dispersion. Alors, on évoque le transport, mais ça peut être aussi tout simplement les flux d'eau, hein, à travers les voies navigables. Et pour le transport par voie d'eau, par le passé, les organismes s'accrochaient quelque part sur les coques des bateaux ou voyageaient dessus. Et aujourd'hui, on sait que c'est les eaux de ballast qui posent le plus de problèmes. Donc il y a une législation sur les ballasts de bateaux qui nous viennent d'autres continents. Mais pour les eaux intérieures, je suis pas certain que la gestion des ballasts qui servent à équilibrer la charge des bateaux, eh bien, permettent d'éviter la diffusion des exotiques. Donc, il y aurait encore des choses à faire là-dessus.
Merci. On poursuit avec une question de Nicolas Poulet.
Oui, bonjour. Merci pour ces résultats. Dans la limite des questions de Nicolas. Alors, je suis arrivé un peu en retard, désolé. Est-ce que vos travaux considéraient indépendamment les canaux artificiels et les rivières canalisées? Et enfin, si vous considériez les deux en même temps, vous avez bien fait le distinguo, est-ce que vous avez observé des différences selon les cas entre milieu purement artificiel et milieu aménagé pour la navigation? Et après, j'ai une question concernant l'impact des écluses. Alors, je voyais que ça avait un impact positif sur les réophiles. Alors, je m'interroge un peu pourquoi est-ce que c'est parce que ça permettait d'avoir à ces espèces un domaine vital plus grand et pour accomplir leur cycle de vie ou est-ce qu'il y avait quelque chose caché derrière? Et en contrepartie, est-ce que la présence d'écluses avait pas un impact aussi positif sur la dispersion des espèces exotiques?
Alors, je vais commencer à répondre peut-être et puis je passerai la main. Pour la différenciation canaux et enfin, je sais plus comment dire en français, mais channels et canals, en gros. Dans la carte systématique des connaissances, donc au tout début, dans l'état de l'art, on arrive à faire le distinguo. Donc, on a. Si je reviens là-dessus. Ah oui, pardon. En fait, vous n'avez pas le. Mais en gros, on arrive à faire le distinguo entre les deux. Par contre, il me semble que pour l'analyse quantitative de la contexte dépendance, je ne crois pas qu'on ait pu faire la distinction. Donc voilà, ici, les canaux, ça devrait être. Ah ben non, je ne vous l'ai pas mis, désolée. Bon, enfin, pour l'analyse quantitative sur les jeux de données d'observation, on avait le taux de chenalisation, donc d'artificialisation des berges, mais voilà, on ne pouvait pas forcément faire la distinction. Et pour la deuxième question, je n'ai pas noté en fait, désolée, il va falloir peut-être que je passe
C'était
la main.
concernant, c'était sur les écluses, le rôle des écluses sur le côté positif des écluses sur les espèces réophiles. Je me demandais, est-ce que c'était juste une question de migration ou qu'il y avait quelque chose de plus hydraulique derrière? Et est-ce que aussi, je m'interrogeais sur le rôle des écluses sur la dispersion des espèces exotiques?
Alors, Je peux répondre pour la partie inventaire des mesures de réduction des impacts de la navigation. Les éclusées dites piscicoles visent à rétablir la continuité longitudinale. Elles ne sont pas possibles partout, ça dépend du type d'aménagement. Ça consiste à ouvrir les portes alors qu'il n'y a pas de bateau qui passe. En fait, c'est ça le truc. Et techniquement, on ouvre les portes, mais pas beaucoup, de manière à ce qu'il y ait un appel d'eau. Hein, sinon, le poisson ne trouve pas le chemin. Et en fait, quand on fait ça, on met la porte en souffrance hydrauliquement. Et donc, tous les ouvrages ne permettent pas de faire ce type d'éclusée piscicole. Ça a aussi un coût financier et ça a un coût temporel parce que pendant qu'on fait une éclusée piscicole, les bateaux passent pas. Donc, voilà, ça a été testé à quelques endroits du monde. Ça laisse passer, évidemment, des poissons. Ça fonctionne, ça fait le job, entre guillemets. Mais sans les trier. Donc, si c'est bénéfique à des espèces natives, ça peut tout aussi bien être bénéfique à des espèces exotiques. Je ne saurais pas en dire beaucoup plus sur cet aspect-là.
Et selon vous, le côté accueil de ces milieux-là aux espèces exotiques, c'est parce que ce sont des voies de passage ou sont des milieux qui sont favorables à ces espèces? Et est-ce que c'est parce qu'il y a de la navigation ou est-ce que si on enlevait complètement les bateaux et qu'on laissait juste les canaux comme ils sont, est-ce que et la capacité d'accueil et le, enfin, pas la capacité d'accueil, mais est-ce qu'on aurait la même diversité, la même richesse en espèces exotiques?
C'est une bonne question. Est-ce que finalement le passage des bateaux nuit aux espèces natives? Parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même bien, bien documenté. Et c'est l'effet des vagues, hein, très clairement, le facteur principal. Donc, est-ce qu'on a de la place, entre guillemets, dans l'écosystème? Parce qu'il y a des niches libérées, parce qu'il y a l'impact de ces bateaux là où le milieu est très artificiel. Moi, je pense que, je pense que c'est relativement indépendant. Je pense que même s'il n'y avait pas de passage de bateau, ces milieux très, très artificiels et conviennent surtout bien au profil de certains envahisseurs très proliférants, etc., qui vont booster nos indicateurs en fait de richesse et d'occurrence en exotique. Voilà, c'est un ressenti sur la base de ce que l'on sait des profils en fait écologiques de ces espèces-là. Tu connais ça presque mieux que moi, Nicolas. Enfin, tu connais ça mieux que moi pour la partie piscicole. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la partie invertébrée. Dans les deux cas, en fait, on a des espèces qui sont très, très tolérantes, en fait, hein, vis-à-vis de la thermie, de l'oxygénation, des conditions d'écoulement. Et donc, ces milieux très artificiels, c'est faire le lit, finalement, à leur prolifération.
Ok, merci.
Oui, puis pour compléter aussi sur finalement, enfin, c'est assez complexe parce que même pour certaines espèces invasives, il semblerait que la navigation puisse à très petite échelle avoir un effet négatif en fait. Donc ça vient complexifier encore un peu plus le paysage pour justement l'analyse sur GBIF, elle montre bien que à échelle très très fine, on détecte quand même des effets négatifs de la navigation aussi sur la richesse en exotique. Donc, ce qui se retrouve pas forcément à large échelle, hein. Donc c'est, enfin voilà, c'est, je crois que ça va pas être une réponse aussi tranchée que voilà que ce qu'on peut
Ouais.
imaginer.
Je m'y attendais un peu. Merci.
Merci pour ces questions très intéressantes. Est-ce qu'il y a encore une autre question, un autre commentaire? En attendant, je voulais féliciter Aliénor et Jean-Nicolas pour avoir respecté strictement leur temps de présentation. J'ai chronométré, on était pile poil dedans. Pile poil dans les 30 minutes.
On s'est préparé un petit peu.
C'est bien.
Et du coup, bah, pour revenir alors à la question de Nicolas sur les canaux et enfin, les channels et les canaux dans le supplémentary matériel de la carte des connaissances, on peut voir le nombre d'articles qui portent sur les canaux par rapport au nombre d'articles qui portent sur les channels. Et donc, en fait, globalement, il y a beaucoup plus d'éléments sur les canaux que les channels, en gros. Donc, ça permet déjà de retrouver les articles en question si après vous avez besoin d'éléments plus spécifiques. Au moins, enfin, vous avez déjà une grille de lecture qui est fournie par cet article et les supplementary materials que, voilà, qui peuvent vous faire gagner du temps aussi, si besoin.
Merci.
Je ne sais pas si vous êtes en contact encore avec Aaron. Je crois savoir que ça se passe bien pour lui en Allemagne.
Oui, alors. Oui, mais en fait, il a eu en plus, dans la foulée, il a eu un poste d'assistant professeur à Cornell University.
Ah,
donc,
d'accord.
Donc, ça se passe très, très bien pour lui, pour la suite. Et donc, il a réduit un peu le temps de postdoc en Allemagne pour pouvoir rejoindre son poste aux États-Unis. Mais donc, bon, après, il a pu partir. Hein. Je ne sais pas très bien maintenant comment ça se passe, mais de ce que j'ai compris pour l'instant, il a toujours son poste. Mais voilà. Et on continue d'échanger pour valoriser ce qui reste à valoriser. Donc voilà, ça a été très fructueux en fait, hein, cette collaboration, clairement.
Oui, c'est vrai qu'il se trouvait que c'était quelqu'un de bien en plus, ouais.
Oui, Aaron était exceptionnel et enfin il a transformé tout ça en fait. Voilà. Donc
aux autres, Aaron Sexton, c'était le postdoctorant qui accompagnait le groupe Navidive. Et qui a eu donc du coup un début de belle carrière.
Oui, tout à fait. Ça l'a lancé comme il faut. Mais il avait déjà un très bon CV.
Un bon bagage.
Ouais, ouais. Donc très très motivé.
Si pas d'autres commentaires, je voudrais remercier les participants d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout. Merci pour les questions et les intérêts que vous avez portés. N'oubliez pas, le prochain webinaire Summer aura lieu le 17 septembre. Merci encore à Aliénor, Jean-Nicolas, pour ce beau projet.
Merci à vous.
Je ne doute pas que nos routes se croiseront à nouveau. Et je vous souhaite une belle suite, une belle valorisation, une belle continuité pour Navidive. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à chacun.
Merci à tous.
Merci.
Au revoir. Merci.